Tu veux faire quoi déjà? Descendre le Mississippi en canoë. En partant d'où? Du début. Et c'est où? Au Minnesota. Au Minnesota, répète-t-il. Tu sais combien il y a de noirs au Minnesota? Six, à tout casser. Il avale une autre gorgée. Et tu comptes aller jusqu'où? La Nouvelle-Orléans. En traversant le sud, il reprend une gorgée. De là où il n'y a pas de noirs, à là où on ne nous aime toujours pas beaucoup. Je ne sais pas pour toi, mais moi, ça m'inquiéterait un peu. Je visualise le fleuve, d'abord une ligne bleue sur la carte, puis, à mesure que Robert parle et que je m'y vois noir, seul, et à découvert et vulnérable, la ligne bleue se trouble et se fragmente jusqu'à ce que plusieurs Mississippi apparaissent. Il y a le fleuve du légende, le père des eaux, le fleuve des bateaux à vapeur et des joueurs de poker, le fleuve qui emporte les larmes et la sueur des esclaves. J'entends le battement des tambours indiens et le chant des esclaves au repos à l'ombre des saules de plantation sur les rives de l'Old Man River. Le fleuve s'est animé dans ma tête, les paysages, les sons et les odeurs du fleuve de mon imagination. Mais je sais que ce ne serait pas ça. Trappeurs en peau de daim, bateaux à aubes surchargés de balles de coton, canoë indien glissant en silence. Je sais que ce ne serait pas ça. Mais je ne sais pas à quoi m'attendre. Si j'en ai jamais eu la moindre idée, maintenant, je ne sais plus.
Magnifique lecture en français. Merci beaucoup, Eddie Harris, d'avoir lu un extrait de ce livre qui paraît donc pour la première fois en français dans une traduction de Pascal Marie Deschamps chez Léana Lévy, Mississippi Solo. Premier livre que vous avez écrit, paru en 1988 aux États-Unis. Après, en France, on a pu lire de vous Harlem, on a pu lire de vous Jupiter et moi, on a pu lire de vous Paris en noir et black tous, paru chez Liana Levy. Bienvenue dans ces matins.
Merci beaucoup.
Merci d'être là avec nous. Ce livre, Mississippi Solo, il raconte l'histoire d'un homme qui s'appelle Eddie. On est en 1986, cet homme a 30 ans, et donc il a eu l'idée plutôt saugrenue, comme le dit son ami Robert à l'instant, de descendre le Mississippi tout seul sur un canoë, depuis sa source au lac Itasca dans le Minnesota jusqu'à la Nouvelle-Orléans en Louisiane, c'est-à-dire 4000 kilomètres. Est-ce que c'est une histoire que vous avez vécue?
Bien sûr, c'est mon histoire, c'est l'histoire de, je ne peux pas dire de ma jeunesse, mais un exploit qui m'a formé un peu. Et c'est quelque chose qui maintenant est très important pour moi parce que ça m'a créé en tant qu'écrivain.
Oui, parce que ce livre qui a été tiré de votre exploit, Mississippi Solo, paru en 1988 aux États-Unis, est un livre qui a rencontré un immense succès, qui continue d'être étudié, commenté, etc. Donc c'est pour ça qu'il était temps qu'on le traduise.
Et ça m'étonne toujours.
Ah, c'est comme ça.
Ouais, c'était un livre assez simple. Avant, je me dis écrivain. Mais est-ce que mes envies n'étaient pas dans le non-fiction, c'était d'écrire des romans, des vraies fictions. Donc ce livre qui est un exploit vrai du non-fiction, je ne savais pas quoi faire pour écrire un livre de non-fiction. Donc la simplicité du livre vient du fait que je ne savais pas comment faire un livre comme ça.
Oui, mais au départ, ça n'était pas pour faire un livre
Absolument
de
pas.
cet
C'était pour
exploit.
faire l'exploit, pour me...
C'était pour vous mettre au défi presque, en vous disant,
Oui,
pour exister,
pour
quoi.
Me tester, mais aussi pour savoir qui j'étais. Qu'est-ce qu'il y avait? Parce qu'après 7 ans d'échecs, je voulais savoir si j'avais toujours la force et le courage de continuer à être un écrivain non publié. Et à la fin du voyage, j'ai trouvé que oui, je suis capable de faire n'importe quoi dans cette vie.
Oui, donc c'est quand même aussi un récit initiatique au-delà d'une aventure fluviale hors du commun. Quand vous êtes parti, donc à 30 ans, Eddie Harris, vous n'étiez pas du tout expérimenté, c'est-à-dire que vous n'avez pas fait de canoë spécialement, et vous n'étiez pas spécialement sportif. Alors c'est quand même une idée particulièrement saugrenue qui vous a prise là, de descendre le Mississippi tout seul. Malgré tout, le Mississippi, et on l'a un peu entendu là, c'est une histoire familiale, le Mississippi. C'est une histoire américaine. C'est une légende, le Mississippi.
C'est une légende pour l'Amérique, mais pour le monde aussi. C'est bien sûr une histoire familiale pour moi, parce que j'avais une rencontre avec le fleuve quasiment tous les jours quand j'étais petit.
Vous avez grandi à Saint-Louis.
À Saint-Louis, à côté du fleuve. Ma mère était toujours en train de parler du fleuve avec ses enfants, moi et mon frère. Et j'ai eu un amour pour le fleuve depuis le début. Et quand j'ai décidé de faire quelque chose pour me tester, pour me prouver quelque chose, naturellement, j'ai choisi le Mississippi.
Vous pouviez le descendre autrement qu'en canoë?
Mais c'est pas la même chose de descendre dans un bateau à moteur, par exemple. Il y a pas mal de gens qui font ça. Et moi, je voulais me tester en plus. Et la seule façon de me tester vraiment, c'était en fait un exploit physique, pas seulement mental. D'être tout seul pendant 2 mois, ça c'est une chose. Mais tout seul, épuisé à la fin de chaque journée, un exploit extrêmement physique. Ça ajoute un élément qu'on ne trouve pas si on était juste tout seul dans une chambre.
Est-ce que vous avez eu peur?
J'avais peur tous les jours.
Oui, mais vous dites pas peur du froid, peur de l'eau, des rapides, des castors, des ours la nuit, des barges le jour, mais pas spécialement des gens.
Je n'avais pas de peur des gens parce que je n'y avais pas pensé en fait. Je pensais que les
gens... Pourtant, vous avez mis en garde.
Robert m'a mis en garde un peu, mais je ne voulais pas que sa réalité soit ma réalité. Il était un vieux monsieur de je ne sais pas combien d'années, 75 ans à ce moment-là, à peu près. Donc il a vécu l'Amérique, une différente Amérique que moi. Et je ne voulais pas incruster dans ma tête les peurs de l'ancienne génération, la façon de vivre de Robert ou de mon père ou de mes parents ou de cette autre génération. Je voulais construire un avenir à moi. Et dans cet avenir, je ne voyais pas une raison d'avoir peur. C'était pas dans mon éducation.
Eddie Harris, vous écrivez quand même par rapport à ce Mississippi dont vous déclarez, auquel vous déclarez votre amour, que c'est un Mississippi, un fleuve qui charrie des mythes et des fantômes du passé, des fantômes qui sont pas forcément des fantômes heureux au bord du Mississippi. Les Amérindiens qui sont arrivés les premiers ici et Dieu sait où, écrivez-vous, les explorateurs espagnols, les missionnaires français, les trappeurs et les marchands, les pionniers et les colons, les commerçants et les bateliers, les pilotes de bateaux à vapeur, les marins et les rafteurs, les fermiers, les esclaves, les propriétaires de plantations, les manœuvres et les sacripants, les vagabonds et les joueurs de poker. Joueurs, ils l'étaient tous. Malgré tout, vous aviez des raisons de vous dire, même si ce n'était pas dans votre éducation, que vous pouviez tomber sur des gens qui ne voulaient pas que du bien.
Oui, en fait, j'ai tombé sur 2 personnes vers la fin du voyage.
Des bouseux avinés. C'est comme ça que vous les présentez.
En même temps, la plupart des gens qu'on croise dans la vie, pas seulement sur ce voyage dans le Mississippi, mais dans la vie, les gens sont assez sympas. Et je comptais sur ma personnalité de bonhomme. Et
assez sympa.
Assez sympa, on dirait. Formidable, dirait d'autres. Ma personnalité plus leur personnalité individuellement. Parce que je pense qu'individu face à un individu, les gens sont plus ou moins bien. C'est quand on tombe dans le groupthink qu'on perd quelque chose et on devient protecteur de ce groupe. Et quand j'étais tout seul, je pense que la plupart des gens que j'allais croire croisé était allé être très bien avec moi.
Il y a d'ailleurs deux gestes importants qui traversent ce livre. C'est le salut de la main sur votre passage. Alors, des gens qui sont sur les rives, hein, la plupart du temps, et d'ailleurs, vous le leur rendez, ce salut de la main. Et puis, quelque chose qui est très important pour vous, manifestement pendant ce voyage en tout cas, c'est que à chaque halte, puisque vous vous arrêtez quand même pour manger, et que vous allez dans les villes à côté du fleuve, dans les dinners, pour le dire à la américaine, et bien systématiquement vous dites s'il vous plaît, donc please en américain, quand vous commandez votre repas. Et ça a l'air de rien, mais pour vous c'était systématique. Manifestement, pour les serveurs et les serveuses que vous avez rencontrés, c'était presque parfois surprenant. Ça fait partie des premières choses importantes dans une relation individuelle, dites-vous.
Ah, je n'avais jamais pensé à ça.
Ah oui, ça revient très souvent dans votre livre.
Oui, mais ça c'est moi, j'ai dit. Pas seulement formidable et
poli,
très poli en fait, et ça arrive naturellement avec moi. Et aussi le geste de la main. Ce que j'ai trouvé dans ce geste était une capacité de changer une rencontre, même de loin. Je change le monde, j'ai décidé que en fait je suis en train de changer le monde par les gestes comme ça. Un sourire, une touche. Un geste de bonjour. L'autre jour, à Angoulême, j'ai croisé deux personnes et comme ça, sortait de ma bouche, bonjour, comme ça. Ils m'arrêtent, ils voulaient parler de pourquoi je suis arrêté pour dire bonjour et on a eu 15 minutes de conversation et c'était absolument formidable. Donc, le moment qu'on laisse les barrières, qu'on fait tomber les barrières, les rencontres sont assez géniales. Ils peuvent être.
C'est un petit peu plus difficile, dit Harris, avec les chiens sauvages.
Oui, mais les animaux, ils ont leur propre façon de penser et de réagir. Heureusement, dans ce voyage, j'étais armé comme un bon américain. Et j'ai eu la capacité de m'évader avec le pistolet que j'avais.
C'est ça qui vous a sauvé. Vous avez plusieurs fois, dites-vous dans le livre, eu envie de tout abandonner en vous disant « mais qu'est-ce que je viens faire dans cette galère ?» et de rentrer à la maison. Et pourtant, vous ne l'avez jamais fait. Pour quelle raison ?
Bon, il y a plusieurs raisons. La raison principale, c'était peut-être si j'abandonne, j'abandonne quelque chose qui est dans moi. Robert m'a posé cette question avant que je ne parte. Que pensiez-vous si vous abandonnez le voyage? Parce que ça va jouer aussi. Réussite, l'échec, ce sont deux faces de la même pièce. Et il faut gérer les deux ensemble parce que le succès, oui, c'est bon, mais c'est pas tout. La façon de vivre l'échec, c'est important aussi. Donc, je voulais abandonner le voyage tous les jours, pratiquement tous les jours, mais dans mes arrière-pensées, il y avait les voix de tous les gens avec qui je parlais de ce voyage avant de le faire, qui disaient non, c'est idiot, tu n'arriveras jamais. Et si je quitte le fleuve à n'importe quel stade, c'est eux qui auraient gagné. Et je ne voulais pas faire ça non plus. Et même à la fin du voyage, même si pendant les 4000 kilomètres, je voulais quitter pratiquement tous les jours, à la fin du voyage, je n'étais pas prêt à partir. Je voulais continuer jusqu'au golfe du Mexique et peut-être au-delà de ça.
Et il a quand même fallu vous arrêter au terme de ce voyage, quand vous êtes arrivé en Louisiane, à la Nouvelle-Orléans, ou quasiment avant, Eddie Harris. Vous êtes allé donc jusqu'au sud. Robert vous dit dans l'extrait que vous nous avez lu au début que vous êtes parti de là où il n'y a pas de noir et que vous allez aller là où on ne les aime pas beaucoup. Vous êtes vous-même de couleur noire de peau et vous dites c'est pas spécialement important. Pour moi, en tout cas, c'est pas une question. Pourtant, la question raciale est au cœur de votre œuvre. Quel rapport entretenez-vous avec votre couleur de peau? Et quel rapport avez-vous rencontré dans le voyage que vous avez fait au moment où ça bascule, c'est-à-dire que vous arrivez dans le sud, là où Robert vous dit, historiquement, on ne nous aime pas beaucoup ici.
Bon, ma couleur de peau, je trouve assez jolie, non même très jolie. C'est un marron clair, pas trop clair, pas trop foncé non plus. C'est assez joli. Et quand la lumière du soleil me touche, ah, ça brille extraordinairement bien. À part ça, la raison que je suis noir, c'est pas dans mes yeux que je suis noir. C'est dans les yeux de l'autre que je suis noir. Dans mes yeux, je suis, avec cette jolie couleur, je suis Eddie Harris, tout court. Avec beaucoup de qualités, beaucoup de défauts, j'imagine aussi. Mais en ensemble. Mais c'est les gens qui me croisent, qui me voient, qui ne me connaissent pas avant, ils voient un noir avant tout. Et c'est dans leurs yeux que je suis, que l'importance de race prend l'ampleur. Et donc moi, je vis ma vie comme je veux, j'évite les gens qui sont cons. Je suis attiré par les gens qui ne sont pas cons et qui sont moins cons. Et basta. Donc, cette question, c'est pas ça qui me définit.
The name of this tune is Mississippi Goddamn. And I mean every word of it. Alabama's gotten me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi, goddamn. Alabama's gotten me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi, goddamn. Can't you see it? Can't you feel it? It's all in the air. I can't stand the pressure much longer. Somebody say a prayer. Alabama's gotten me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi, goddamn.
On ne pouvait pas faire sans Nina Simone et son Mississippi, goddamn, Eddie Harris, que vous chantez par cœur en écoutant la voix de Nina Simone. Alors ce voyage sur le Mississippi en canoë tout seul, il se trouve que vous êtes retourné le faire il y a quelques années, il y a 4-5 ans,
oui.
Avant ou après l'élection de Trump ?
Juste avant.
Juste avant l'élection de Trump. C'était comme si vous aviez envie de voir si vous aviez autant de chance que la première fois, si les gens étaient aussi accueillants avec vous que la première fois.
Pas seulement une question de chance, mais aussi de voir les changements dans le pays entre les 30 ans. Et avec ça, pour voir comment les gens vont me traiter. Je sentais que l'ombre de Trump était sur l'horizon et le monde avait changé à cause de, ou grâce à Obama. Et surtout dans le backlash contre Obama pendant ces deux mandats. Et je voulais savoir qu'est-ce que ça me donne si je redescends sur Mississippi fleuve, le fleuve Mississippi. Et finalement, j'ai trouvé les gens, encore une fois, individu face à individu, les gens sont super. Mon troisième livre parle d'un voyage que j'ai fait en moto dans le sud des États-Unis. Je cherchais d'un côté...
C'est un livre qui n'est pas traduit en français. Hein.
Comment ?
C'est un livre qui n'est pas encore traduit
non,
en
pas
français.
Non, pas encore traduit en français. Mais ça, le but de ce voyage était un confrontement avec le passé, mais aussi une réconciliation avec le passé. Je voulais voir, est-ce que le sud de Robert, le sud que nous n'aimons pas toujours bien, est-ce que ce passé existe ? Est-ce que ce sud existe toujours ? Ou est-ce que je vais trouver quelque chose d'autre ?
Et alors ?
Et finalement, j'ai trouvé encore, les gens sont sympas. Quand on les confronte sans agression, sans beaucoup de passé sur mon sac à dos, mais avec amour, avec ouverture, avec...
Vous avez bien conscience que ça ne suffit pas toujours, Eddie Harris.
Pas toujours, non, je ne suis pas... Je suis naïf, mais pas...
Pas à ce point,
à ce point-là.
C'est ça, oui.
Je vois le monde comme il est. En même temps, je ne peux pas changer le monde sauf à travers moi. J'approche les gens avec mon Eddie Harrisisme. Et si ça suffit, ça suffit. Sinon, paf, je fais demi-tour et je laisse tomber les gens.
Le Mississippi, c'est un fleuve qui traverse un certain nombre d'États. Hein. Le Minnesota, l'Iowa, le Missouri, le Tennessee, la Louisiane, etc. D'ailleurs, il y a la carte à la fin. C'est très bien, d'ailleurs. La carte est mise à la fin de votre ouvrage. Est-ce que ce sont des bastions trumpiens ?
Ah, bonne question. Je ne sais pas. Missouri, oui. Illinois, non. Mais le problème, c'est que les bastions Trump sont plutôt dans les campagnes. Le pays est un pays de campagnards, sauf les grandes villes. Donc Chicago, en Illinois, prend plus d'ampleur que le reste de l'État. Saint-Louis, Kansas City, la même chose en Missouri. Mais il y a plus de Trumpiens dans Missouri, à part Kansas City, Saint-Louis, que en Illinois, à part Chicago. Donc c'est difficile à juger, mais je sais que Missouri est basculé vers Trump et Illinois a resté démocrate.
Le romancier Eddie Harris est avec nous ce matin à propos de son Mississippi Solo qui paraît en français chez Liana Levy, une équipée fluviale, une aventure intérieure, un voyage initiatique au cœur de l'Amérique. On parlait de l'Amérique juste avant les titres de l'actualité, évidemment à la veille de l'élection présidentielle. Alors vous vivez en France dans un village des Charentes, Harris, depuis quelques 25 ans, mais ça ne vous empêche pas, je suppose, de suivre ce qui se passe dans votre pays à peu près comme nous le faisons, parce que c'est un enjeu mondial. Comment voyez-vous les choses aujourd'hui, très simplement?
Je pense que les États-Unis sont dans une situation catastrophique et après Obama, on est descendu dans presque l'enfer. Et soit on va toucher le fond et remonter, ou on va désintégrer. Et c'est une situation très sérieuse aux États-Unis.
Alors, le fond, ce serait avec lequel des deux candidats, et se désintégrer avec lequel, si je vous suis bien?
Non, c'est pas les candidats qui vont faire désintégrer le pays. Le pays est en train déjà de se dissimuler. Est-ce que Trump est le pire? Probablement oui. Et je pense qu'on a déjà touché le fond. Mais s'il est réélu, on va creuser encore plus. Si Biden est élu, je pense qu'on va se stabiliser un peu. Mais c'est pas le président c'est le président qui met le ton à un pays. Mais c'est pas lui qui va sauver les États-Unis. C'est les Américains. Et si Trump regagne la Maison-Blanche, je perdrai toute ma confiance dans le peuple américain. Il y a un problème, je pense, une dysfonction dans leur tête qui peuvent être, après 4 ans de ce mandat, avoir 40% des Américains qui se soutiennent toujours. Ça, je trouve absurde.
Anne Desine, spécialiste des États-Unis, au matin cette semaine, disait qu'on ne trouve plus guère que des hommes blancs non diplômés pour voter Trump, comme si c'était sa base qui ne déroge pas, en tout cas, au soutien. Alors ça ne fait pas complètement 50% ou même 40%.
Non, mais ça c'est peut-être une base de base. Mais ça, c'est pas les seules personnes qui votent pour Trump. Les gens avec de l'argent votent pour Trump aussi. Comme si la société globale ne compte pour rien, comme si l'argent c'est la seule chose qui, leur argent même, c'est la seule chose, même si le pays tombe en ruine, s'ils ont leur argent, ils sont bien, mais je trouve ça absurde aussi. C'est bizarrement égoïste, le pays, individualiste peut-être, et on pense plutôt à moi et pas à vous. Et ça c'est le problème principal du pays.
Comment on en est arrivé là? Ça fait longtemps en même temps. Hein,
ça fait longtemps
que les choses se sont aggravées.
Une partie du problème, c'est cette notion de communisme. On ne peut pas penser en collective. On pense toujours à moi parce que je suis anticommuniste, je suis antisocialiste, même si le mot social est dans le mot socialisme. Et on profite de beaucoup de choses avec de l'argent public dépensé pour le métro, pour beaucoup de choses. Mais on ne le voit pas comme ça. On voit que ma maison, ma situation personnelle, c'est ça qui compte et le reste, non. Et pourquoi? Je ne sais pas. Cette conquête de l'Ouest, peut-être, où on pensait que tout le monde a fait l'avenir à son gré, uniquement, qui n'est pas du tout vrai. Mais on pense peut-être qu'on est toujours dans une situation de l'individu qui fait tout.
Eddie Harris, Douglas Kennedy, qui est un écrivain américain célèbre également, parle d'une nouvelle guerre de sécession, carrément. Daniel Mandelson, un autre très grand écrivain américain, disait hier au matin de France Culture qu'on était proche d'une guerre civile à bas bruit et que quelque chose s'était brisé dans son pays. Est-ce que vous utiliseriez les mêmes mots aujourd'hui, guerre de sécession, guerre civile à Babori?
Moi non, parce que j'ai trop de confiance dans les systèmes, par les systèmes, je cherche un autre mot, je ne trouve pas.
Les institutions?
Les institutions qui gardent le pays intact. Et je pense qu'ils vont, soit ils surviennent, ils survivent, et le pays va continuer à rouler comme un rouleur compresseur. Soit, ça va être la fin des États-Unis, mais je ne vois pas une guerre de sécession. La guerre de sécession a été gagnée par le Sud, déjà, par les racistes, par les sécessionnistes, et ça continue. En fait, si je veux parler de la guerre de sécession, je pense qu'on est finalement à la fin de cette guerre. C'est pas le début d'une nouvelle guerre, c'est la fin de la guerre qui a continué depuis le 19e siècle.
Qu'est-ce que vous pensez de l'engagement des écrivains américains contre Trump à l'initiative de Paul Auster, de Cyrus Vance et de leur fille Sophie? C'est un mouvement qui a été créé en août, qui rassemble désormais près de 1800 auteurs, dont Russell Banks, Charles Salman Rushdie, Rebecca Solnit, etc. Le mot d'ordre, c'est Words Matter, pour retrouver le sens des mots. Mais ils sont très engagés, c'est-à-dire qu'ils appellent à des mouvements pour inciter au vote mardi prochain, à surveiller les résultats.
Oui, mais je pense que oui, ça c'est bien. Mais il peut avoir les écrivains pro-Trump aussi, ou les artistes pro-Trump, ou les acteurs pro-Trump. Je ne donne pas plus de crédibilité à un groupe ou à un autre groupe. La solution reste dans moi et mon vote. Cette personne et sa vote. Mais tout le monde a cette responsabilité de voter. Et quand les choses sont... Les cartes sont tous sur la table. Mais le côté qui a le plus de voix va gagner.
Ben ça, manifestement, ça ne suffit pas. Ça n'a déjà pas suffi lors de l'élection dernière. Si bien d'ailleurs que un éditorialiste sur le site du New York Times écrivait il y a quelques jours, Jesse Wegman, pour le citer, parlait il y a quelques jours dans un éditorial de la grande difficulté du vote populaire dû au problème fondamental, disait-il, du collège électoral.
Ça, c'est un problème. Mais le problème n'est pas avec le collège des grands électeurs. Pour moi, le problème reste dans la Constitution. Si on parle d'une nouvelle guerre de sécession ou la continuation de la guerre de sécession, on arrive à un stade, à un moment où c'est grand temps de créer un nouveau pays. Et le nouveau pays se crée avec une nouvelle Constitution. La France a fait combien de constitutions déjà? Les États-Unis peuvent le faire aussi. C'est une adhérence au passé qui garde une sorte de biblique, un regard biblique avec la Constitution qui est destructeur. Et je pense qu'il faut changer la Constitution, recommencer dès maintenant pour dire que le passé est passé, on va construire l'avenir. Et ça commence avec la Constitution.
Eddie Harris, vous avez été confiné, je crois, aux États-Unis.
C'est ce qu'on dit, oui.
Au printemps, c'est ce qu'on dit en tout cas. Vous allez donc maintenant, puisque ça a commencé, expérimenter le confinement en France. Vous vivez depuis une vingtaine d'années dans ce village des Charentes, à 15 kilomètres d'Angoulême. Vous êtes prêt?
Absolument. Déjà, le confinement aux États-Unis était formidable pour moi, parce que je n'ai rien fait, sauf faire des courses de temps en temps, faire la cuisine beaucoup et manger beaucoup, beaucoup aussi. Ça, pour moi, c'était formidable. Et en France, je vais faire la même chose, sauf avec le rajout du bon vin. Ça va être extraordinairement bien pour moi.
Et vous avez quelques semaines encore pour trouver un distributeur pour le documentaire issu du deuxième voyage que vous avez fait sur le Mississippi. Le premier ayant donné lieu à un livre formidable, Mississippi Solo, paru chez Liana Levy. Vous restez de toute façon avec nous pour la suite de cette émission, mais on referme la parenthèse longue ensemble de l'invité culture avec le choix musical qui est le vôtre, d'ailleurs. Vous avez choisi un Houghton Brass Band. Vous en dites un mot?
Non, c'est tout, sauf qu'il faut signaler aussi que je suis en train de réécrire un nouveau texte sur le deuxième voyage aussi. Au cas où je ne trouve pas un diffuseur pour le film, voilà.
Sexual Healing, Hot and Brass Band.